Samedi 11 août 2018, il est 18h, tout de suite le journal du studio Kalangou et c'est dans une présentation de Michel Dégé. Les titres de ce journal, l'État du Niger a décidé de mettre fin au bras de fer qui l'oppose à la société africaine en signant un accord de transaction avec cette société en vue d'une levée des saisies sur tous ses biens et avoirs à l'étranger. Les clauses de cet accord ont été présentées ce matin à la presse par le directeur général de l'agence judiciaire de l'État qui a représenté le Niger tout au long de la procédure, entouré des avocats de sa défense. Des jeunes continuent à consommer la chicha dans les espaces publics de la capitale malgré l'interdiction des autorités. Le président de la délégation spéciale de Niamey opte pour des actions de sensibilisation avant la répression. Poursuite des consultations publiques dans les villages concernés par le plan d'action de réinstallation de la deuxième vague des déplacés due à l'exécution du programme Kandaji. Vous suivez en partie magazine les explications du directeur du département de la sauvegarde environnementale et sociale de l'agence sur les préoccupations soulevées par les populations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'affaire en justice entre l'État du Niger et la société africaine, le Niger accepte de verser à cette société 8 300 000 euros pour être définitivement remis dans ses droits. C'est dans l'intérêt du Niger, explique le directeur général de l'agence juridique de l'État, Mainassara Maïdaji, au micro du studio Kalangou.
Déjà au 10 avril, du fait que la condamnation à 15 milliards et demi portait un taux d'intérêt de 13% par an, elle est montée au 10 avril 2018 à 24 milliards. Ça peut continuer encore tant qu'on ne paye pas. Du coup, donc vraiment en payant 8 300 000 euros, je trouve que c'est gagné, j'allais dire, par rapport à toutes les tracasseries que nous devons continuer à faire, toutes les saisies qui ont été faites. Il faut courir, faire des contrats et tout ce qui s'ensuit.
Est-ce qu'il y a eu main levée sur la totalité de ces saisies?
Oui, dans l'accord même, on a donné des délais. Ils avaient 30 jours. La somme a été versée le 19 juillet. Donc, j'ai reçu 70 procès-verbaux de main levée à la date d'aujourd'hui.
Il en reste combien?
Puisque certaines n'ont pas été dénoncées. Toutes celles dont on a connaissance, elles font partie des main levées. L'immeuble de New York s'est déjà fait. Quand c'était un engagement pris, qu'ils doivent attester qu'il n'y a plus d'autres saisies.
Plaider pour la mise en place des cantines scolaires à travers lesquelles les cultivateurs locaux pourraient en priorité faire écouler leurs produits agricoles et être ainsi plus impliqués dans la gestion de ces cantines et la promotion d'une éducation de qualité. C'est ce que vise une mission de la coalition nigérienne des associations syndicales et ONG engagées dans la campagne Éducation pour tous récemment en tournée dans le pays. Des précisions avec le président de la coalition ASSO-EPT, Moussoubi, au micro du studio Kalangou.
Les missions sont parties dans toutes les régions pour pouvoir vraiment s'inquiéter du bon fonctionnement au niveau de la gestion des cantines scolaires et voir par rapport à cette intervention, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon, puisque pour nous, le tout vise à ce que, en fin de compte, que nous parvenions à aider l'État du Niger à élaborer une loi dans le cadre de la gestion de ces cantines scolaires. Nous ne sommes pas seuls sur la thématique. Il y a l'Assemblée nationale qui a déjà fait une proposition de loi par rapport à la gestion de ces cantines scolaires. Nous, la thématique qui est en vigueur par rapport à ces programmes, c'est d'abord la consommation de produits locaux. Vous savez, de tout temps, les produits ont été importés de l'extérieur au niveau des écoles. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse épauler les cultivateurs locaux pour pouvoir produire des produits qui seront en mesure de faire en sorte que les cantines scolaires qui arrivent à être ravitaillées soient ravitaillées par des produits véritablement locaux. C'est-à-dire, même les partenaires financiers, au lieu d'importer ailleurs, ils vont acheter ces produits-là auprès de nos cultivateurs. Donc, il y a déjà un bénéfice et pour les cultivateurs et encore pour les élèves parce que les élèves vont consommer les produits auxquels ils sont habitués.
Une brève dans ce journal, l'épidémie de choléra a tué 13 personnes sur un millier de malades recensés dans la région de Maradi. Selon l'AFP, l'annonce provient de l'ONU et des autorités du Niger. Les malades, dont une cinquantaine, ont été recensés jusque dans des quartiers de la ville de Maradi. Ce sont des enfants âgés de 1 à 15 ans, selon l'ONU, précise la dépêche. Les trois premiers cas ont été admis au centre de santé intégré de Yalwa dans la nuit du 4 au 5 juillet 2018 en provenance de Jibia au Nigeria voisin. Au 7 août, 993 cas ont été enregistrés pour 13 décès selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA de l'ONU de Niamey. Le respect, la mise en œuvre et l'application intégrale de la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et de la césarienne suscitent toujours le débat au Niger, selon le médecin-chef du district sanitaire de Dakoro, Dr Saleh Maman. Cette gratuité est appliquée à Dakoro. On l'écoute au micro de Mokhtar Hamadou.
La gratuité des soins se porte bien au niveau donc du site sanitaire de Dakoro. Il y a une ONG qui s'appelle Bifen Alima qui a signé avec le ministère donc de la Santé et signé avec le site sanitaire cette prise en charge des enfants 0-5 ans gratuitement. Et au niveau de toutes les formations sanitaires, c'est clair, les enfants 0-5 ans doivent bénéficier gratuitement des soins.
Quelle est-elle de la césarienne?
Vous savez que la césarienne, elle aussi, ça rentre dans le cadre de la gratuité. La césarienne d'abord, même l'évacuation de la femme qui doit être césarisée, l'évacuation même est gratuite parce que elle est prise, le carburant est pris en charge par le centime additionnel. Le centime additionnel que le site sanitaire est en train donc de faire. Donc, gratuitement, on donne le carburant et l'ambulance pour évacuer la femme. Elle vient au niveau donc de l'hôpital, de la maternité. On la prépare et il y a un kit qui est là, donc gratuit aussi. Et l'intervention même, elle est gratuite.
Cette semaine, les secours organisés par une mission de l'OIM ont permis de sauver 128 migrants, dont 8 femmes et 14 enfants, dans le désert à Asmaka, localité nigérienne frontalière de l'Algérie, indique l'OIM sur sa page Facebook, sans préciser s'ils avaient été refoulés par les autorités algériennes. Les rescapés sont arrivés à pied et ont reçu les soins de premier secours, explique l'agence dans une dépêche reprise par l'AFP ce samedi. Il s'agit des ressortissants de 11 pays dont le Nigeria, le Bénin, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Gambie, le Libéria, le Cameroun et le Sénégal. Selon l'OIM, une centaine d'entre eux ont été accueillis mercredi dans le centre de transit d'Arlit, cité minière du nord du Niger. En revanche, 6 autres ont refusé l'assistance onusienne et ont décidé de retenter leur chance en Algérie. À l'instar de plusieurs autres localités du Niger, la commune urbaine de Tessawa dispose aussi d'une plateforme information, orientation professionnelle et accompagnement des jeunes. Grâce à la plateforme, plusieurs dizaines de jeunes ont été réinsérés dans la vie active et a déclaré le responsable de cette structure, Idi Abdou.
La plateforme information jeunesse de Tessa, elle informe les jeunes, elle les accompagne dans le cadre de la réalisation de leur projet professionnel. C'est-à-dire, si un jeune vient avec un projet professionnel, même s'il n'a pas d'idée, on essaie de mettre au point le projet et on l'accompagne pour qu'il puisse mettre en œuvre son projet. C'est tout un processus, l'accompagnement se fait à travers l'entretien. À partir du troisième entretien, nous l'appelons accompagnement, parce qu'à partir de cela, on pense que les jeunes sont sérieux. On peut l'accompagner soit avec les relations au niveau local et les mettre en relation auprès d'un partenaire pour un emploi, ou bien pour une formation initiale, ou bien pour une formation de renforcement des capacités, ou même pour un stage dans une entreprise de la place, ou même s'il y a autre entreprise qui sont de la région, on peut les orienter pour qu'ils puissent bénéficier de la formation. Je peux dire aujourd'hui, il y a une vingtaine de jeunes qui ont bénéficié de ce qu'on appelle un programme d'appui à l'insertion professionnelle. À l'heure actuelle, dans notre base de données, nous pouvons compter 1300 jeunes. Mais les 1300 jeunes ne sont pas tous mis dans la base de données, ils ne sont pas mis à jour.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Malgré l'interdiction de la consommation de la chicha dans les espaces publics aménagés par la délégation spéciale de Niamey, des jeunes de la capitale continuent de s'adonner à cette pratique. Pour y remédier de façon douce, des espaces publics sont créés pour permettre le regroupement de ces fumeurs afin de les sensibiliser à abandonner. Le président de la délégation spéciale, Mamoudou Mokhtar, au micro de Diallo Mariam Kanda.
La consommation de chicha se faisait un peu partout dans la ville de Niamey, un peu de façon dispersée, de façon isolée. Il est plus simple pour nous de créer, d'aménager des espaces où ces jeunes vont se retrouver ensemble. parce que ça permet pour nous, en termes de prise de contact, en termes d'échange, d'avoir des lieux privilégiés de dialogue, de concertation, d'échange avec ces jeunes-là. Le fait qu'aujourd'hui on a aménagé certains espaces où les jeunes se trouvent, on va constater tout ce qu'il y a comme dérive, tout ce qu'il y a comme comportement qui ne colle pas avec nos mœurs, avec nos valeurs. Et nous allons aller vers ces jeunes-là, échanger avec eux. On a effectivement constaté que sur ces lieux, les jeunes consomment la chicha. Mais les jeunes n'ont pas commencé à consommer cela dans cet espace. Ils le faisaient avant, mais de manière dispersée. Aujourd'hui, ils vont le faire dans un lieu groupé. Ça va nous permettre, nous, d'aller vers eux, de les sensibiliser, de les sanctionner éventuellement. Nous avons fait, assez souvent, vous allez le remarquer, des opérations avec la police pour prendre les jeunes qui font. Nous allons prendre des sanctions, voilà, au fur et à mesure.
Au Niger, les auteurs, notamment les artistes musicaux, vivent de leur création. Cependant, bon nombre d'entre eux ignorent encore que d'autres activités, hormis les exploitations audiovisuelles, pourraient leur générer des droits d'auteur. Du moins, c'est ce qu'explique Adamou Batouré, chef service informatique et répartition au Bureau nigérien du droit d'auteur BNDA, que je propose d'écouter.
Il y a tellement d'activités qui peuvent générer du droit d'auteur pour un artiste. Mais malheureusement, il se trouve que la plupart des artistes attendent toujours les droits d'auteur payés par les radios et les télés. Mais malheureusement, à ce niveau, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas que les radios qui payent. Il y a ce qu'on appelle les DRM, les droits de reproduction mécanique. Quand vous créez une œuvre, vous mettez ça sur un support. Avant de mettre ça sur le marché, il faut amener ça au BNDA pour que le BNDA valide. Maintenant, les droits versés par les promoteurs, là, ça revient aux artistes. Les séances occasionnelles, les concerts, les mariages, les bals populaires, là également, c'est payant. Il faut faire payer les promoteurs. Quand vous payez les promoteurs, les droits d'auteur reviennent aux artistes. Souvent, c'est des œuvres qui sont interprétées. Et quand on interprète, il faut dire la vérité pour permettre aussi aux autres de gagner quelque chose. C'est eux les vrais créateurs. Quand un artiste crée une œuvre, il peut bénéficier du droit d'auteur pendant toute sa vie et 70 ans après sa mort, ses héritiers peuvent venir percevoir les redevances du droit d'auteur tant que ça rapporte quelque chose.
Propos recueillis par Ilatou Soumana. L'agence du barrage de Kandaji poursuit ses consultations publiques dans les villages concernés par le plan d'action de réinstallation de la deuxième vague des déplacés. Idriss Yauga, directeur du département de la sauvegarde environnementale et sociale de l'agence, explique au micro de Haroun Soumain les préoccupations soulevées. C'est la partie magazine.
Les gens sont beaucoup préoccupés par rapport à deux choses. La première des choses, c'est les maisons d'habitation. Les gens sont soucieux de la qualité des habitations. Deuxièmement, les gens sont soucieux de la question des parcelles agricoles, parce que on peut dire que ce sont des questions essentielles qui touchent leur vie. Alors si on prend la question de la reconstruction des habitations, puisqu'on a changé de formule par rapport à la première vague. À la première vague, c'est l'argent en espèces qui avait été donné aux populations. Cette fois-ci, le changement, c'est que l'État se propose de reconstruire les habitations au niveau des nouveaux sites. Donc ce n'est pas l'argent qui est donné aux chefs de ménage. De manière générale, les gens ont adhéré à cette formule. Pour ce qui est des parcelles agricole, on peut dire que la grande préoccupation, c'est que sur le nouveau périmètre, on va dire, ce ne serait pas pour l'essentiel des périmètres destinés à la riziculture. Donc les gens sont soucieux parce que c'est des populations qui ont pour tradition la riziculture. Bon, là aussi, ça va demander un grand changement de mentalité parce que les gens estiment que quand ce n'est pas le riz, alors on se dit qu'en termes de revenus, ils peuvent faire des productions dont la valeur marchande pourrait être supérieure au riz. Donc on peut produire autre chose et acheter son riz et manger. Donc à ce niveau, nous estimons qu'il y a besoin d'accompagnement en termes d'information et de sensibilisation. On sait que ce n'est pas facile, mais en fait, comme du reste, tout le travail du processus, c'est un travail itératif qui demande beaucoup de consultations, beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, et c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler. Du reste, c'est le sens des consultations publiques. C'est exposer le processus, le contenu, recueillir les avis des populations, échanger avec ces populations-là. Nous le pouvons, de les prendre en compte, de les prendre en charge, parce que il faut le reconnaître, c'est un processus qui n'est pas facile. C'est des gens qui ont vécu d'une certaine façon. C'est quelque chose qui va bouleverser leur vie. Donc c'est normal que les gens s'inquiètent. Et c'est normal que nous apportions de notre côté toute toutes les informations tendantes à les rassurer pour dire que l'État est soucieux de leurs conditions de vie et l'État ne fait rien qui va dans le sens de la dégradation de leurs conditions de vie.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.